6, that's it almost 6. 5, 6, that's it almost 10. 5, 6, that's it almost 10.
5?
6.
7?
6.
Oui, mais c'est justement ce qui est intéressant. Inférieur. Après. Message. Je profite de l'occasion offerte par la publication du premier numéro du bulletin d'éducation physique de la Chambre pour donner ma bénédiction à cette revue et à la société JSASA, Jeunesse sportive de la Chambre de chez Obindo. En le faisant, je désirerais insister sur la raison d'être profonde de telles associations, spécialement sur le besoin et l'utilité pour la nation de l'extension de leur organisation et de la diffusion des sports et exercices physiques tels qu'ils sont pratiqués ici. Sous leur aspect le plus superficiel, ils semblent être simplement des jeux et des amusements que l'on pratique pour se divertir ou en tant que champ d'épanouissement pour l'énergie et l'instinct naturel d'activité du corps ou comme moyen de développement et de maintien de la santé et de la force corporelle. Mais ils sont, et peuvent être davantage, ils forment aussi un champ pour le développement d'habitudes, de capacités et de qualités qui sont d'une grande nécessité et d'une utilité extrême pour un peuple dans la guerre comme dans la paix, dans ses activités politiques et sociales, en fait, dans la plupart des domaines de l'activité collective. C'est à ceci que nous pouvons appeler l'aspect national du sujet que je voudrais donner une importance spéciale. À notre époque, les sports, les jeux et l'athlétisme ont pris une place et inspiré un intérêt général tel qu'on en vit autrefois que dans les pays comme la Grèce. La Grèce, où tous les côtés de l'activité humaine furent également développés, et où le gymnase, les courses de chars, les sports et l'athlétisme eurent du côté physique la même importance que du côté mental, les arts, la poésie et le théâtre, et reçurent l'encouragement spécial et la présence des autorités civiles de la cité. C'est la Grèce qui fit des Jeux olympiques une institution Et le rétablissement de ces Jeux olympiques au rang d'institution internationale est un indice significatif de la renaissance de l'esprit antique. Ce genre d'intérêt s'est répandu jusqu'à un certain point dans notre pays, et l'Inde a commencé à prendre sa place dans les compétitions internationales telles que les Jeux olympiques. Dans l'Inde libérée, l'État nouvellement fondé commence aussi à s'intéresser au développement de tous les côtés de la vie nationale et prendra probablement une participation active et une direction habituelle dans des champs autrefois laissés à l'initiative privée. Il se préoccupe par exemple de la question du fondement et de la préservation de la santé et de l'aptitude physique de la nation, ainsi que de la diffusion d'une reconnaissance générale de leur importance. C'est sous ce rapport que l'encouragement des sports et des associations pour l'athlétisme et toutes les activités de ce genre serait une aide incalculable. La généralisation de l'habitude de prendre part à ces exercices dans l'enfance, la jeunesse et l'adolescence aiderait grandement à la création d'un peuple physiquement apte et énergique. Mais d'une importance plus haute que le fondement même nécessaire de la santé, de la force et de l'aptitude corporelle, et le développement de la discipline, du moral et d'un caractère sain et fort auquel ces activités peuvent contribuer. De nombreux sports sont d'une valeur extrême pour atteindre ce but parce qu'ils aident à former et même rendent nécessaires les qualités de courage, de hardiesse, d'action énergique et d'initiative, ou qu'ils exigent l'habileté, la volonté ferme, ou la décision et l'action rapide, la perception de ce qu'il faut faire en cas d'urgence et l'adresse à l'accomplir. Un développement d'une très grande valeur est l'éveil de la conscience essentielle et instinctive du corps, qui peut voir et faire ce qui est nécessaire sans intervention de la pensée et qui équivaut pour le corps à la perception immédiate pour le mental et à la décision spontanée et rapide pour la volonté. On peut y ajouter la formation d'une capacité de mouvements harmonieux et corrects du corps, particulièrement dans une action combinée, et aussi l'économie de l'effort physique et la réduction du gaspillage de l'énergie qui résulte d'exercices comme la manœuvre à pied et les mouvements d'ensemble et qui remplacent les mouvements mous et dissociés, discordants, désordonnés ou gaspilleurs habituel au corps de l'individu sans entraînement. Je crois qu'il faut aller jusqu'ici. Un autre résultat précieux de ces activités est la croissance de ce qu'on a appelé l'esprit sportif. Cela comprend la bonne humeur, la tolérance et la considération pour tous, une attitude correcte et amicale envers les adversaires et rivaux, la maîtrise de soi et la stricte observation des règles du jeu, la loyauté et l'abstention de toute tricherie, une acceptation égale de la victoire et de la défaite, sans mauvaise humeur, sans ressentiment ni malveillance envers l'adversaire heureux. L'acceptation loyale des décisions du juge ou de l'arbitre désigné. Ces qualités ont leur valeur dans la vie en général et non seulement dans le sport. Pourtant, l'aide que le sport peut donner à leur développement est directe et inappréciable. Si elle pouvait se généraliser, non seulement dans la vie des individus, mais dans la vie nationale et la vie internationale, où à présent les tendances opposées sévissent avec excès, l'existence dans notre monde tourmenté serait plus aisée et pourrait s'ouvrir à une plus grande possibilité de concorde et d'amitié dont le monde a tant besoin. Plus importante encore est l'habitude de discipline, obéissance, ordre, esprit d'équipe que certains jeux nécessitent, car sans ces qualités, le succès y est incertain ou impossible. Innombrables sont les activités de la vie, spécialement de la vie nationale, où le rôle du chef et l'obéissance au chef dans l'action combinée sont nécessaires au succès, à la victoire dans le combat, à l'accomplissement d'un projet. L'action du chef, du capitaine, la puissance et l'habileté de sa direction, son aptitude au commandement, la confiance et l'obéissance immédiate de ceux qui le suivent sont d'une importance capitale dans toute espèce d'action ou d'entreprise en commun. Mais peu sont capables de développer ces qualités sans avoir appris d'abord eux-mêmes à obéir et à agir comme un seul corps et un seul esprit avec d'autres. Cette rigueur dans l'entraînement et cette habitude de discipline et d'obéissance ne sont pas incompatibles avec l'indépendance individuelle. Elles sont souvent la condition nécessaire de son usage correct, de même que l'ordre n'est pas en contradiction avec la liberté, mais plutôt la condition de son emploi correct et même de sa préservation et de sa survie. Dans toutes les formes d'action concertées, cette règle est indispensable. L'orchestration devient nécessaire et un orchestre dans lequel les musiciens individuels joueraient à leur fantaisie et refuseraient de suivre les indications du chef d'orchestre n'aurait certes aucun succès. Dans le domaine spirituel, la même règle joue. Un sadhak, disciple, qui dédaignerait la direction du gourou, maître, et préférerait son inspiration inexpérimentée de novice, aurait du mal à échapper aux faux pas et même aux désastres qui si souvent se rencontrent d'abondance autour du chemin de la réalisation spirituelle. Je n'ai pas besoin d'énumérer les autres bienfaits qui peuvent résulter de l'entraînement que donne le sport, ni de m'étendre sur leur emploi dans la vie nationale, ce que j'ai dit suffit. En tout cas, dans les écoles comme la nôtre et dans les universités, les sports ont maintenant pris une place reconnue et indispensable, car même la plus haute et plus complète éducation de l'esprit n'est pas suffisante sans l'éducation du corps. Là où les qualités que j'ai énumérées font défaut ou sont insuffisamment présentes, une force volonté individuelle ou une volonté nationale peut les ériger. Mais l'aide donnée à leur développement par les sports est directe et nullement négligeable. Ceci serait une raison suffisante pour l'attention accordée au sport dans notre ashram, bien qu'il y en ait d'autres que je n'ai pas besoin de mentionner ici. Je m'occupe ici de leur importance et de la nécessité pour notre vie nationale des qualités qu'ils engendrent ou stimulent. La nation qui les possède au plus haut degré sera probablement la plus forte dans la victoire, le succès et la grandeur, et aussi dans la contribution qu'elle peut apporter à l'accomplissement de l'unité et d'un ordre mondial plus harmonieux que nous regardons comme notre espoir pour le futur de l'humanité.
Pendant nos tournois de jeu, il y en a beaucoup qui jouent avec d'esprit très mauvais. Ils essayent de faire mal aux autres pour gagner, comme ça. Et on a observé que même les petits, ils apprennent cela. Comment est-ce qu'on peut l'éviter?
Pour les enfants, c'est surtout l'ignorance et le mauvais exemple qui font du mal. Alors, il serait bon, avant qu'ils ne commencent leur jeu, que tous les chefs de groupe, les capitaines, assemblent leurs, ceux qui dépendent d'eux, et puis leur répètent et expliquent justement ce que Sherbindo dit ici, avec des explications de détail comme celles que nous avons exprimé dans ces deux petits livres, le code de parfait sportsman, et puis ce que un enfant idéal doit être. Ce sont des choses qu'il faut répéter souvent aux enfants. Et puis, les mettre en garde contre la mauvaise compagnie, les mauvais camarades, comme ce que j'ai dit à une autre leçon, une autre classe. Et puis, et surtout, leur donner le bon exemple, être soi-même ce que l'on voudrait qu'il soit. Par exemple, leur donner l'exemple du désintéressement, de la patience, de la maîtrise de soi, d'une bonne humeur constante, surmonter ses petits désagréments personnels, une sorte de bienveillance constante, une compréhension des difficultés des autres. Et cette égalité d'humeur qui fait que les enfants n'ont pas peur parce que ce qui rend les enfants dissimulés et menteurs et même vicieux, c'est la peur d'être puni. S'ils se sentent en confiance, ils ne cacheront rien et on pourra les aider justement à être loyal, honnête, de toute chose. La plus importante est le bon exemple. Shobindo parle de ça, de cette invariable bonne humeur qu'il faut avoir en toutes circonstances. Cet oubli de soi, ne pas jeter ses petits inconvénients sur les autres quand on est fatigué ou mal à l'aise, ne pas devenir désagréable, impatient. Ça demande toute une perfection, une maîtrise de soi qui est un grand pas sur le chemin de la réalisation. Si l'on remplissait les conditions nécessaires pour être un vrai chef, ne serait-ce qu'un chef d'un petit groupe d'enfants, eh bien, on serait déjà très en avant sur la discipline nécessaire pour l'accomplissement du yoga. C'est sous cet aspect-là qu'il faut regarder le problème. L'aspect de la maîtrise de soi, du contrôle, de cette endurance qui fait que votre condition personnelle ne réagit pas sur votre action de groupe ou de collectivité. S'oublier soi-même est une des conditions les plus essentielles pour être un vrai chef. Ne rien rapporter à soi, ne rien vouloir pour soi, ne considérer que le bien du groupe, de l'ensemble, de la totalité qui dépend de vous. N'agir que dans ce but, sans vouloir avoir aucun profit personnel de cette action. Un chef de petit groupe peut devenir ainsi un chef parfait pour un grand groupe, pour une nation, et se préparer à un rôle collectif. C'est une école d'une importance capitale. Et c'est vraiment ce que nous avons essayé et que nous continuons à essayer ici, c'est de donner aussitôt que possible à chacun une responsabilité, petite ou grande, afin qu'il apprenne à devenir un vrai chef. Pour être un vrai chef, il faut être très désintéressé et annuler en soi autant qu'il est possible tout retour sur soi et toute action égoïste. Pour être un chef, il faut maîtriser son ego. Et maîtriser son ego est le premier pas indispensable pour faire le yoga. Et c'est cela qui peut faire des sports une aide puissante pour la réalisation du divin. Peu de personnes le comprennent, et généralement ceux qui sont contre cette discipline extérieure qu'est le sport, cette concentration sur la réalisation matérielle, sont des gens qui manquent totalement de contrôle sur leur être physique. Et pour réaliser le yoga intégral de Shri Aurobindo, le contrôle de son corps est un premier pas indispensable. Ceux qui méprisent les activités physiques sont des gens qui ne pourront pas faire un pas sur le vrai chemin du yoga intégral, à moins qu'ils ne se débarrassent d'abord de leur mépris. Le contrôle du corps sous toutes ses formes est une base indispensable. Un corps qui vous gouverne est un ennemi. C'est un désordre qui est inacceptable. C'est la volonté éclairée de l'esprit qui doit gouverner le corps. Et non le corps qui doit imposer sa loi à l'esprit. Quand on sait qu'une chose est mauvaise, il faut être capable de ne pas la faire. Quand on veut qu'une chose se réalise, il faut être capable de le faire. Et il ne faut pas à chaque pas être arrêté par une incapacité ou une mauvaise volonté ou un manque de collaboration du corps. Et pour ça, il faut suivre une discipline physique et être le maître dans sa propre maison. C'est très joli de s'évader dans des méditations et de regarder du haut de sa soi-disant grandeur les choses matérielles, mais celui qui n'est pas le maître chez lui est un esclave. Pas de questions là, non.
Mais pour les activités physiques, l'un des problèmes qui nous se pose, c'est que pour pouvoir faire, pour pouvoir se perfectionner dans un jeu ou dans une activité quelconque, on a besoin de se concentrer seulement sur ce jeu ou sur cette activité.
C'est tout à fait inexact. Dans ce même premier numéro du bulletin, j'ai expliqué ça tout en détail. C'est tout à fait inexact. Celui qui, justement, a pris le contrôle sur lui-même et a fait croître le pouvoir de concentration, il peut appliquer ce pouvoir de concentration sur des choses en apparence extrêmement différentes, même quelquefois opposées, et pouvoir les faire sans que l'une nuise à l'autre. Il y a une question de temps seulement qui se pose, mais cette question peut se résoudre par deux choses. D'abord, une organisation éclairée et méthodique de sa vie, et puis par l'abolition du gaspillage de temps que la majorité des humains pratiquent par des activités inutiles, que si elles disparaissaient, seraient une bénédiction pour tout le monde. Et en première ligne, je mets le bavardage. C'est-à-dire parler inutilement. Entre camarades, entre dans toutes les activités, le temps que l'on peut perdre à parler est formidable. Quand un mot serait suffisant, on en dit 50. Et ce n'est pas la seule perte de temps. Au fond, quand on est court de temps, c'est qu'on ne sait pas organiser sa vie. Naturellement, il y a ceux qui font trop de choses, mais ça aussi, c'est un manque d'organisation dans la vie. Une vraie organisation donne place à chaque chose dans la mesure où c'est nécessaire. Vous savez tous très bien qu'avec 10 ou 15 minutes d'exercice bien coordonné, vous pouvez donner à votre corps tout le dressage nécessaire. Ça, on vous l'a appris ici et on vous l'a prouvé. Naturellement, c'est pour l'équilibre du corps, ça suffit. Il y a toutes sortes d'autres qualités que donnent les jeux, mais vous ne jouez pas plus d'une heure par jour au maximum, autant que je sache. Et ça ne fait pas beaucoup de temps dans la journée. C'est une excuse. Organisez votre vie et vous verrez que vous avez place pour tout, même pour être un bon élève.